Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michel Gad-Volkovitch sous la direction de qui paraît l'identité en question, qu'est-ce qui fait peuple, le sujet juif aux éditions In Press. Bonsoir Michel Gad.
Bonjour Sandrine, merci de m'inviter.
Et vous êtes ici quasiment chez vous, on salue.
Faites attention à ce que vous me dites.
vous allez vous y installer sinon. Mais c'est vrai que vos différents ouvrages qui paraissent sont vraiment des sujets fort passionnants et intéressants et qu'il est utile de mettre en évidence pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom. Alors on ne rappelle pas que vous êtes psychanalyste et professeur de psychopathologie, que vous êtes également le président de Shibboleth Actualité de Freud, une association qui promeut des échanges transdisciplinaires pour sonder mais aussi mettre en œuvre une clinique du contemporain. Votre actualité est incessante, vous n'arrêtez pas.
Écoutez, ça permet des échanges, des rencontres assez formidables pour tout le monde, y compris pour moi. Donc, il n'y a aucune raison, ça fait partie de la vie.
Oui, est-ce qu'il y aurait comme une urgence aussi par rapport à certaines thématiques qui nous heurtent dans l'actualité et que finalement, il n'y aurait que Shibboleth pour nous alerter?
Alors, écoutez, je ne sais pas s'il n'y a que Shibboleth. Ce qui est sûr, c'est que Shibboleth, je crois, rassemble depuis plusieurs années un plateau d'intellectuels, d'universitaires, de chercheurs, de personnalités assez uniques, je pense, et qui a une particularité, c'est justement, comme vous l'avez dit, de rassembler d'abord des gens différents, de disciplines différentes, de filiations aussi de pensées différentes, et qui sont engagés dans cette éthique qui consiste à essayer de retravailler au fond les filiations de pensée, les généalogies de pensée fondamentales dans toutes les disciplines, la psychanalyse, le droit, la philosophie, la pensée juive, l'art, etc., etc., et de les confronter aux réflexions plus modernes, et surtout à la clinique du contemporain. Je crois que ce qui caractérise Shibboleth, c'est effectivement cette ambition de se confronter à la clinique du contemporain et à toutes les idéologies, à toutes les pensées qui nous envahissent et qui sont agissantes dans des tas de domaines, y compris dans le champ politique, et on en sait quelque chose, nous, juifs.
Alors justement,
ça ne veut pas dire que dans Shibboleth, il n'y a que des juifs. Je veux dire, aussi, hein, c'est très important de le signaler.
Oui, il y a des spécialistes de tous les domaines, mais on a quand même l'impression que les événements que vous organisez, que ce soit les actes qui paraissent de vos colloques ou les événements, eh bien, répondent à une impérieuse actualité. Ouais. On a besoin de réponses, on a besoin de réflexions et que Shibboleth nous aide à y voir un petit peu plus clair. Ouais. Est-ce que c'est ça finalement la mission?
Oui, enfin, je me garderai de parler de mission et de ce genre de... termes. Hein. Je pense que c'est un moteur pour chacun d'entre nous, en tant que juif et en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire effectivement de conjoindre ces entre-deux que sont nos pensées singulières, nos idéaux intimes, avec les préoccupations collectives. Hein. Et je crois que c'est un moteur de vie de pensée, mais aussi de vie collective. À propos de l'identité, je crois que c'est assez effectivement paradigmatique de notre engagement et de notre méthode. Alors moi, je vous avoue que je suis très content de ce livre.
Alors on va en dire un mot.
Je suis très content de ce livre, oui. Et je vais vous dire pourquoi, justement pour répondre à votre question. Je suis très content de ce livre parce que c'est les actes d'un colloque qu'on a fait en Israël il y a maintenant presque 3 ans,
oui. Hein,
qui était le dernier grand événement que nous avons fait avant la période du Covid, qui nous a un petit peu éloignés les uns des autres et qui a bousculé un petit peu les rencontres, puisque les rencontres, on les faisait par Zoom, et on sait maintenant, même si on était très content de les faire, que ce n'est pas tout à fait pareil, notamment de la façon dont on travaille, nous. Et donc, effectivement, ça a été l'occasion de rencontres, comme d'habitude, d'une quarantaine, une cinquantaine d'intellectuels, juifs, non-juifs, israéliens, français, francophones en tout cas pour la plupart, sur un thème qui est l'identité, qui est un peu à la fois la tarte à la crème, mais qui n'est pas seulement une tarte à la crème, c'est vraiment une idéologie aujourd'hui qui est omniprésente, hein, soit pour la mettre en valeur, pour la revendiquer, soit au contraire pour la haïr, ce qui d'ailleurs est un peu la même chose. Hein. Et donc notre méthode, c'est effectivement d'aborder la question de l'identité à partir de toutes les disciplines, à partir des pensées différentes, et surtout en se confrontant à la clinique du contemporain, le wokisme, les identitaristes, l'antisémitisme, la question qu'est-ce qui fait peuple, et le lien avec le singulier et le peuple, etc. Et c'est assez paradigmatique et particulier chez les juifs. Et puis finalement, on reprend ça, c'est un après-coup, le livre est un après-coup, une réélaboration, puisque Au fond, les gens se sont rencontrés, se sont parlés, chacun a présenté ses recherches, on en a débattu entre disciplines différentes, mais aussi dans la même discipline. Et donc, il y a une sorte d'étrangérisation à chaque fois de notre pensée singulière qui fait que les gens reprennent un petit peu leurs conférences, reprennent leurs textes à la suite de ces rencontres, à la suite de l'évolution que ça a provoqué éventuellement. Donc, ce sont des textes réélaborés. Certains sont augmentés, il y a d'autres auteurs qui n'avaient pas pu venir qui sont là. Donc c'est un peu la méthode de Schibolette, c'est-à-dire que c'est une sorte d'infini de la pensée, plutôt qu'un absolu et quelque chose de clos. Et donc ça réunit tout le monde, y compris des artistes, puisque là on est attirés tous les deux par la couverture, comme elle attire je crois beaucoup, et ça participe un petit peu du succès,
pas seulement du contenu.
Signé Gérard Garouste, qui vous a déjà gratifié aussi d'une belle couverture. Et c'est un cadeau formidable. Et c'est vrai que l'art fait partie aussi de la pensée, du travail de culture.
Et dont le parcours rejoint aussi les questions d'identité. Donc, absolument, il a abordé et dans son œuvre picturale et aussi dans son ouvrage L'Intranquille, par exemple.
Absolument. Et dedans, il y a d'autres artistes qui me sont des amis très chers, qui le sont aussi pour vous. Alain Kleiman, qui écrit aussi sur l'identité du peintre. Faire Lelouch, Gérard Garouze, voilà.
Vous nous avez résumé la problématique de cette réflexion, l'identité en question, qu'est-ce qui fait peuple le sujet juif, on va revenir sur différents points. Alors vous avez dit au début que l'identité finalement c'était une sorte, c'est votre expression, de tarte à la crème, mais finalement il fallait revenir à la source pour aborder des questions un peu brûlantes qui se posent dans l'actualité aujourd'hui. Et on voit comment ce sujet est balayé au travers d'une réflexion sur les langues, sur la nation, les soins palliatifs, la famille. Finalement, à l'origine, c'est quoi l'identité ?
Écoutez, je crois que si on pense à l'origine, il faut penser l'originaire comme une construction déjà, et pas du tout comme quelque chose de clos, de fait, etc. Moi, je dirais, en tant que psychanalyste, en tant que juif, en tant qu'humain, que l'identité est une construction toujours en devenir, hein. Et que la question de l'identité est venue pour nous dans une suite assez logique, finalement, de la question de la transmission, pour laquelle vous m'aviez déjà invité, la transmission en question. Si c'était Jérusalem aussi qui posait la question, évidemment aussi, de l'être juif et en même temps de l'antisémitisme, l'un va toujours avec l'autre. En tout cas, moi, en tant que Freudien, le caractère juif, effectivement, et on en parlera peut-être tout à l'heure, suscite de l'antisémitisme en soi, parce que c'est assez constitutif, la haine de ce qui constitue la judéité, est totalement intégrante de l'être antisémite. Bon. Donc la question de l'identité vient dans cette suite-là. Hein. Et de la même façon, on ne peut pas parler de l'identité sans parler de la transmission, sans le lier aussi au sentiment d'appartenance, sans parler de conflictualisation des filiations, hein, qu'elles sont plurielles. On dit que le peuple juif est un, mais il est un justement par sa pluralité, par son altérité. Pas seulement son altérité, j'allais dire, démographique ou statistique, c'est-à-dire les gens sont différents, ils viennent d'origines différentes, mais elle est liée à l'altérité interne de chacun. Hein, le rapport au manque, le rapport à la faille, qui pousse effectivement à affronter le destin, enfin, la question du libre-arbitre, etc. Ces entre-deux-là qui constituent effectivement l'assomption de l'être juif. Donc l'identité vient dans cette suite. Dans ces entre-deux, elle se construit et se reconstruit de façon indéfinie et infinie, dans ces entre-deux, entre la tradition, l'histoire et la création, entre le singulier et le collectif, je l'ai dit tout à l'heure, entre le surdéterminé, qu'il soit biogénétique, historique, familial, et le libre-arbitre. On pourrait continuer comme ça d'état d'entre-deux. Il est vivant dans ces entre-deux-là, c'est justement ce que l'antisémite refuse dans sa quête d'une plénitude identitaire et narcissique totale. Et donc, en ce sens, effectivement, c'est très lié à un processus de transmission qui est, pour moi, un processus de transmission de la transmission et non pas seulement de contenu lui-même. C'est une façon d'être qui différencie, justement, ce qui fait peuple. Peut-être on en reparlera tout à l'heure plus précisément, ce qui fait peuple et ce qui fait groupe ou masse. Hein. Mm-hmm. Un peuple, effectivement, c'est un groupe, effectivement, de personnes qui assument un héritage en acceptant et en prenant le risque de le transformer, d'en faire quelque chose à soi, de se confronter à l'inconnu, à l'infini plutôt qu'à un absolu, et qui est capable de s'inventer. Je reviens souvent sur ce livre de Shlomo Sand qui a fait tant de succès en France, et pas pour rien, puisque évidemment, pour lui, c'était une accusation de dire que le peuple juif, le peuple hébreu s'est inventé. Alors, outre les questions historiques totalement aberrantes, etc., etc., je crois que nous, justement, on peut se targuer, justement, que le peuple juif est inventé et qu'il est capable de se réinventer, justement. Et que les peuples qui refusent de transformer leur héritage, qui sont dans une sorte de transmission clonique, clanique, sont dans une identité mortifiée, dans une haine identitaire qui va toujours être... s'affronter aux autres peuples par envie de substitution, par destruction, par projection de leurs propres échecs, humiliations, etc. Je pense qu'un peuple, comme le peuple juif, et quand je dis ça, je ne dis pas que tous les juifs sont comme ça, il y a d'autres qui non-juifs qui sont comme ça aussi, investis justement dans la transmission, dans l'étude, dans la recherche et dans la capacité d'affronter le destin et d'essayer de le changer, plutôt que d'accuser les autres, de prendre leur place, de les accuser de tout. Hein. Voilà, je crois que c'est un point important qui peut caractériser, au fond, une question fondamentale à propos de l'identité juive, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que de sortir d'Égypte ? Qu'est-ce que ça a été de sortir d'Égypte ? Là, effectivement, on peut se référer, moi je me réfère souvent à Raphaël Drey.
Tout à fait. Hein,
qu'est-ce que c'est que de sortir d'Égypte ? Qui s'est sorti d'Égypte ? Est-ce que tous les Juifs sont sortis d'Égypte ? Qu'est-ce que c'est que de vivre avec des gens, y compris des Juifs qui ne sont pas sortis d'Égypte, avec tout ce que ça représente ? Y compris, évidemment, comment on intériorise l'Alliance ? Qu'est-ce que c'est que ces identifications ? Au fond, qu'est-ce qui fait ? Et ça, c'est, un point fondamental du livre, en tout cas de moi, de mes interrogations. Qu'est-ce qui fait, et ça c'est la suite de Freud, qu'est-ce qui fait trait identificatoire commun aux Juifs ? Qu'est-ce qui construit le Juif ? Est-ce que Moïse a construit le juif de la façon dont on se l'a approprié ? C'est-à-dire, on ne s'est pas identifié à lui en l'incorporant comme les chrétiens, par exemple, ont incorporé Jésus et s'incarne effectivement dans un personnage alors idolâtré et qui est responsable de tout, qui permet l'absolution, alors qu'effectivement, une identification de type juif est une identification anti-idolâtre où on intériorise d'une certaine façon le geste de Moïse, son rapport à la loi, sa transmission, son renoncement aussi à la toute-puissance d'un père totémique, et on l'intériorise sous la forme d'une grande idée qui est effectivement l'Alliance, qui, comme vous le savez, l'Alliance, c'est la Brit Mila, c'est-à-dire c'est une alliance qui est coupée, c'est la coupure, c'est-à-dire qui marque effectivement l'assomption de la castration, l'assomption du manque qui permet de continuer à penser et de ne pas s'incarner dans une sorte de moi moïque idéal de nous-mêmes. Quoi.
Alors il y aurait des choses très intéressantes pour prolonger ce que vous venez de dire. J'ai découvert il y a peu que dans nos textes, eh bien, la circoncision n'apparaît pas avec l'entrée dans l'alliance à 8 jours, mais qu'auparavant elle était un rituel dans le judaïsme. Mm-hmm. Avant le mariage pour les hommes.
D'accord.
Et c'est intéressant parce que ça peut changer les choses. Et finalement, quand on lit les différentes communications, on cherche en filigrane ce qu'il y a, et bien c'est le dénominateur commun de l'identité pour les Juifs.
Absolument.
Et il y a notamment une communication qui est très intéressante sur l'identité juive en général, et celle de Freud en particulier, c'est celle de Viviane Chetrine-Vatine. Alors tout le monde fantasme un petit peu sur Freud et le judaïsme, etc. Et elle explique, elle, comment de l'identité juive de Freud repose sur la figure paternelle derrière laquelle se trouve en embuscade le féminin maternel. Alors, peut-être que je l'ai mal lu parce que je ne suis pas psychanalyste, mais c'est tout à fait passionnant comme idée.
Écoutez, l'élaboration de Viviane, qui est une amie très proche, qui participe à Chibolette régulièrement, est tout à fait passionnante, effectivement, sur ce qu'elle appelle le féminin maternel. Je suis personnellement pas trop d'accord avec elle. je suis d'accord avec elle, sauf que je trouve qu'elle tire un peu de façon un peu trop ce trait-là, mais je la comprends, puisque c'est quand même quelque chose, c'est une pensée qu'elle a créée, qu'elle développe, etc. Et donc, elle tient, effectivement, à la faire connaître, à la faire discuter. Voilà. Je pense qu'elle participe un peu, et on en discute assez souvent tous les deux, à une sorte quand même d'effacement de la primauté de la figure du père. Je ne dis pas du père, mais de la primauté de la figure du père chez Freud. Hein, je ne sais pas une idée morale, éthique ou politique que je dis, ou idéologique. Chez Freud, quand même, il y a un dégagement de la figure du père qui participe de la construction du juif. Hein. C'est-à-dire que le renoncement éthique à la jouissance immédiate, à la perception immédiate, à la jouissance sans limite, etc., la nomination anti-idolâtre, etc., de Dieu, la dématérialisation, au fond, de Dieu, la dénaturalisation de l'homme, participe effectivement d'une disjonction de la figure du père, en un père symbolique, en un père réel. Là, je m'excuse, je parle un petit peu technique ou théorie. Mm-hmm. Cette disjonction, elle s'opère justement, vous rappeliez l'histoire de la circoncision, elle s'opère justement par le renoncement du père de la Horde à sa toute-puissance totémique et animique, c'est-à-dire en se faisant circoncire, mais d'abord, en tout cas dans l'histoire d'Isaac et d'Abraham, en acceptant de faire circoncire son fils, il ne le fait pas à ce moment-là simplement par toute-puissance, c'est-à-dire un peu comme Jupiter mangeait ses enfants pour pas que ce soit des rivaux. Peut-être qu'il y avait encore un peu ça chez lui, parce que son histoire familiale est quand même un peu lourde. Oui. et son complexe paternel, sa relation au père, elle n'était pas tout à fait réglée. Bon, mais il le fait parce qu'il y a une instance supérieure. Il se soumet lui-même à une instance supérieure, et une instance supérieure qui n'est pas idolâtrée non plus. Hein. C'est une instance supérieure qui va permettre l'entrée dans la société. Hein, il va permettre, c'est-à-dire que l'enfant, par sa circoncision, va rentrer, il va être un semblable différent de sa communauté. C'est ça le sens. Et le père lui-même va pas être l'auteur de la loi et l'incarnation de la loi, il va la représenter d'une loi qui est transcendante. C'est-à-dire qu'il accepte de renoncer à sa toute-puissance de père primitive, et c'est là où il se disjoncte effectivement en un père réel et un père symbolique. C'est-à-dire qu'au fond, il devient un étranger du dedans, il représente un surmoi. Il n'est plus idolâtré. Et c'est là où je pense que la figure du père qui se dégage dans le judaïsme et dans la civilisation, et c'est bien ça qui est mis en cause aujourd'hui, d'ailleurs, avec le wokisme, avec etc.
Et on va en parler. Oui.
La haine de la différence des sexes, des générations. Je pense qu'il y a une entrée, dans la civilisation et une entrée dans la culture, surtout, puisque bon, en allemand, on a du mal à discerner civilisation et culture chez Freud, hein, le malaise dans la culture. C'est-à-dire, je crois qu'il y a les deux. Je crois qu'en français, on peut les différencier. Et je pense que le travail de culture, c'est-à-dire le travail de pensée qui peut se conflictualiser, qui s'appuie sur une ambivalence possible. On sait qu'effectivement, le sujet va se dégager à partir de l'acceptation d'une éthique de vérité, de responsabilité. Moi, j'aime beaucoup le concept de liberté responsable dont parlent Raphaël Drey et Benno Gross, d'élévation intellectuelle qui est un entre le spirituel et l'intellectuel, la Gestaltigkeit. Et puis l'assomption de l'ambivalence, c'est-à-dire la désidolâtrie, y compris de nous et de notre propre pensée. Elle se conflictualise. Elle vient de cette disjonction de la figure du père. Donc la figure du père, pour moi, elle est quand même fondamentale. Et je trouve, pour répondre encore à votre question et pour répondre à Viviane, que revenir sur le fémur maternel, avec quoi je suis d'accord, il y a toujours un risque de revenir à une sorte de toute-puissance maternelle, hein, qui est derrière, comme vous dites, l'arrière-mère. Moi, j'ai écrit un article il y a longtemps sur l'arrière-mère, qui est dangereuse, cette toute-puissance maternelle. Elle est toujours dans une quête de totalité. Elle est toujours dans une quête, justement, de rassemblement, de fusion. Donc, je suis très prudent avec ce concept intéressant, mais je crois qu'il faut être prudent. Il ne faut pas en faire un slogan, quoi.
Alors, au travers aussi des présupposés qu'on peut avoir, c'est qu'on a l'impression que finalement, la question d'identité hante les Juifs plus que les autres groupes. Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité? Et on parle de mère, la mère juive a une représentation exacerbée aussi au monde juif. Est-ce que ça peut être lié? Et l'autre question qui en découle, est-ce que finalement, les interrogations surgissent en monde juif ne sont pas celles aussi qui irradient dans la culture universelle? Est-ce que ce ne serait pas le point de départ?
Alors, effectivement, en quoi l'identité juive est une identité humaine et paradigmatique de l'identité humaine, avec toutes ces questions, qu'est-ce que je suis, etc., qu'est-ce qui va me rester de moi,
qui suis-je,
qui suis-je pour les autres, pour moi, etc. Bon. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle a de particulier, hein? Moi, j'aime bien dire, au fond, si Benny reprend d'ailleurs ça, cette idée du singulièrement universel. Et d'ailleurs, c'est la réponse à un appel qui fait partie du sens du chemin juif. C'est un peu celui-là. C'est l'appel qu'on propose, à laquelle on essaye de répondre, où la réponse n'est jamais définitive, où la réponse n'est jamais la bonne. Ce n'est jamais ça. Chez le juif, au fond, l'identité, c'est ça n'est jamais ça. Non ?
Mais hein?
C'est peut-être ce qui différencie. Alors, on est hanté. Je ne sais pas si on est hanté. Qu'est-ce que c'est en quoi on est juif, en quoi on existe, etc. Si le rapport à Dieu, ça c'est fondamental, effectivement. Dans la question de notre identité, c'est toujours référé à un tiers. À Dieu, hein, est-ce qu'on est complètement athée? Bon, Freud disait lui-même, je n'ai pas la foi, Dieu merci. C'est lui qui l'a inventé. Est-ce qu'on peut dire qu'on est complètement athée? Est-ce qu'on peut dire qu'on est complètement croyant? On peut espérer là aussi dans l'entre-deux, c'est-à-dire dans le doute permanent, dans la confrontation permanente. Elie Wiesel disait avec Dieu ou contre Dieu, mais jamais sans Dieu. Mais je pense que c'est important, le avec et le contre, cet entre-deux. Ça, je crois qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de l'éthique juive dedans. On sait très bien les dangers qu'il y a, en tout cas pour moi, il y a un danger de fragmentation, de guerre des juifs, quand des juifs effectivement disent « les vrais juifs c'est nous, c'est pas eux hein? », les vrais sionistes c'est nous, c'est pas eux, etc. etc. On sait que là, il y a un danger, et il y a un danger pas seulement de guerre et de confrontation politique, militaire, tout ce qu'on veut, mais il y a un danger de l'anéantissement de ce qui constitue l'identité juive. Je pense qu'il y a quelque chose de singulier qu'on a assumé, qui est aussi une préoccupation pour le peuple, pour le collectif, on le porte, mais je pense qu'il y a toujours cette intrication entre les deux. Donc c'est, l'identité est toujours présente tant qu'à partir du moment où elle n'est jamais définitive, elle est toujours à construire, elle est toujours... pour moi, l'identité, elle est polysémique, elle est polyphonique, elle est polyscénique.
Oui.
C'est une identité programme, une identité projet. Dès lors que dans des groupes, effectivement, cette identité est incarnée, qu'elle ne peut pas bouger sous peine de risques, de blessures narcissiques ou de fantasmes, de désintégration, où on se met dans une position victimaire et de haine, et on est dans une pure autoconservation, on ne crée plus rien. Encore une fois, je reviens à Shlomo Sand. Heureusement que le peuple juif s'invente. Il faut continuer, pas seulement le revendiquer. C'est pas un slogan du Club Méditerranée, mais il faut le mettre en œuvre, se réinventer, transformer notre héritage, etc. Au risque de revenir dessus, de se tromper, etc. Et surtout de permettre à nos enfants de faire des choix. Ça rejoint la question du père. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un bon parent, un bon père, suffisamment bon? Pas un bon père, mais un père suffisamment père, bon. C'est quelqu'un qui prend le risque de transmettre, effectivement, ce à quoi il croit, ce qui lui paraît important, qui essaye de donner l'exemple, non pas d'être exemplaire, mais l'exemple de quelqu'un qui pense, quelqu'un qui assume les difficultés, qui assume les épreuves, qui essaye, en tout cas, de faire ce qu'il peut pour ce qu'il croit être bien pour lui, pour les autres, etc. Mais aussi de permettre à ses enfants de le critiquer, de faire autre chose, etc. Et pour ça, il faut transmettre, pour prendre le risque du conflit avec ses enfants et leur permettre de prendre leur vrai chemin. Il y a des peuples qui ne peuvent pas accepter ça. Il faut que ça soit comme ça, une sorte de reproduction du même, etc. Je pense que nous, on a à nous garder. On n'est pas indemne et vacciné de ça parce qu'on est juif. On n'est pas vacciné de ça universellement. Je pense que ça se fait chez chacun, à chaque génération. Je crois que ça, c'est très important. Et ça répond à votre question. L'identité, elle doit être... C'est une visée idéale qui a toujours à se construire, à se déconstruire, etc. On est en face, effectivement, et je pense que l'antisémitisme est lié à ça, à ces revendications. À quoi on a affaire aujourd'hui? On a affaire à des gens, soit qui revendiquent leur identité comme un totem, comme une sorte de phallus narcissique, qui est plein, qui est juste, ils se mettent dans des positions victimaires, c'est très à la mode, en disant, voilà, c'est nous les bons, bon, on est persécutés parce qu'on a raison. On le voit d'ailleurs dans les questions d'identité sexuelle aujourd'hui, les questions de transgenre, on a effectivement cette revendication-là. Ou alors on est dans une version apparemment opposée, où l'identité est taboue, on a la haine de l'identité, où c'est fasciste de parler d'identité, etc. Et bizarrement, ces gens qui parlent comme ça, finalement, à la fois sont dans une pureté, c'est-à-dire nous, on n'est rien... j'ai une blague à propos de ça de chauffeur de taxi où le rien c'est le tout, évidemment c'est la pureté narcissique, on se mouille pas, si on est rien on est tout, etc. Et bizarrement ces gens-là vont idolâtrer des minorités, etc., qui eux effectivement ont le droit d'avoir une identité pleine, de se revendiquer comme peuple, alors qu'eux effectivement le refusent. On est dans ces trucs-là et on voit qu'ils se rassemblent, il y a une nébuleuse de ces identitaristes qui vient dans une généalogie de l'histoire de la French Theory, d'ailleurs, le déconstructivisme, le relativisme culturel, etc., qui aboutit au fond à une rigidification, au fond, du rapport à l'identité avec les indigénistes, avec les néo-féministes, avec les anti-racistes officiels qui font du racialisme. Et qui parlent comme des racistes, c'est-à-dire ça vient du sang, ça vient du truc, etc. Enfin, on a le droit de changer notre identité tout le temps, on a le droit à tout, donc on est tout puissant, et à la fois Et à la fois on est contre, et à la fois on est contre ça. Donc c'est une clinique, c'est une nébuleuse, comme disait fasciste, comme disait Orwell à une époque, c'est-à-dire, et on le voit dans la, on le voit politiquement aujourd'hui, dans le champ, on a des fascismes qui sont clairement liés à des, liés à la, question de l'identité, à la fois du côté de l'extrême droite, à la fois du côté de l'extrême gauche, et au milieu on est paumé, quoi. Donc il y a un vrai danger.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Michel Gad-Volkovitch, président de l'association Chibolette Actualité de Freud, qui nous parle de l'identité en question, qu'est-ce qui fait peuple, le sujet juif qui vient de paraître aux éditions In Press. On va prolonger ce que vous disiez à l'instant, puisque la réflexion sur l'identité, eh bien, elle semble comme déraillée hein, aujourd'hui. Vous avez abordé certains termes, j'en aborde d'autres. Le wokisme, vous l'avez cité, les théories du genre, et notamment l'abrogation de la différence des sexes. C'est Monette Vaquin qui l'explique dans l'ouvrage. Est-ce que finalement l'identité, dans cette ère du temps, n'est pas le symptôme de quelque chose qui se cherche ou qui va mal ?
Absolument, je crois que c'est un véritable symptôme central qui pour moi, en tout cas en partie, est lié à la Shoah, à l'après-Shoah en tout cas. C'était, et après à la Seconde Guerre mondiale et la Shoah qui est évidemment centrale dans la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il y a, on a souvent parlé de la culpabilité de l'Occident, de son colonialisme après la guerre, ça existe sûrement, mais je crois qu'il faut faire une grande différence entre la culpabilité et la honte. Je pense que l'Europe est honteuse, honteuse de la Shoah, honteuse d'avoir été complice, honteuse, je parle pour la France, puisqu'on est en France en particulier, de ne pas s'être battue, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'ils ont été battus, mais ils ne se sont pas battus. Hein, alors, c'est pour ça qu'on a, y a des résistants formidables, mais c'est pour ça qu'on a voulu, et De Gaulle y a participé, à faire de la France une France résistante. On a idéalisé les résistants, tout le monde était résistant, c'était bien pour cacher quelque chose, malheureusement. Je pense qu'il y a une honte profonde, qui peut-être vient d'il y a longtemps, il y a aussi l'héritage chrétien, etc., etc. Mais il y a une honte profonde, vous savez qu'il y a un psychiatre israélien des années 60 qui disait « ils vont nous faire payer tout le mal qu'ils nous ont fait hein. ». Et ça vient de la honte, c'est pas de la culpabilité. C'est une culpabilité qui ne s'est pas travaillée, qui a été enfouie pendant un certain temps, et puis qui fait retour avec d'autant plus de violence. Donc la honte, effectivement, elle tente de se dissoudre dans la haine qui cherche des objets à se légitimer elle-même. Hein. Évidemment, l'antisémitisme est une grande conséquence de ça. Bon, elle a existé avant, l'antisémitisme, j'en ai dit quelque chose tout à l'heure, mais je pense qu'elle est revenue avec force, justement parce qu'il fallait choisir un objet de haine, bien sûr dans une inversion aussi des rôles, hein, les Juifs et les Israéliens deviennent les nazis, etc., mais ils deviennent un objet de haine pour dissoudre la honte, effectivement, d'avoir dépassé les limites de l'humain, quoi, hein, et de ne pas s'être battu. Je crois que ça, c'est un élément fondamental. Et à la fois contester la question de l'identité, c'est-à-dire si on n'est rien, on est coupable de rien. Hein. Mais en même temps, si on peut être tout tous les jours, effectivement, on fait penser à des enfants qu'ils peuvent devenir filles, garçons, transgenres tous les jours, etc. On les met dans une toute-puissance et puis ça nous évite aussi, nous, de nous mettre dans une position parentale, c'est-à-dire de dire non, là, t'as le droit de fantasmer, t'as le droit de, c'est très bien, rêve, fantasme.
Est-ce que c'est dangereux?
C'est très dangereux. Je veux dire, on le voit dans la clinique courante. Et malheureusement, des pédopsychiatres, des médecins, des psychanalystes aussi y participent. Vous vous souvenez peut-être du film Petite fille qui est passé à la télé, qui a eu même un succès en Israël, à savoir cette petite fille qui voulait devenir un garçon. Finalement, on a bien vu que c'était le désir inconscient de la mère, plus ou moins conscient de la mère, que pour des raisons de bien-pensance, de compréhension, de mode aussi, la pédiatre devient complaisante de ça. Et donc, il y a un enfant, au fond, comme tous les enfants, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tous les enfants ont des théories sexuelles infantiles, heureusement, tous les enfants ont des fantasmes. Des enfants vont vouloir, des filles veulent devenir garçons parce que Voilà, je vais le dire comme ça, très vite, on va me critiquer, mais parce qu'elles sont jalouses de ce qu'elles n'ont pas, c'est-à-dire un pénis. Les garçons, ils ne le disaient pas, ils le disent maintenant. Ils veulent aussi changer, ils voudraient être une fille ou autre chose pour éviter l'angoisse de castration, etc. Bon, ça fait partie de la structuration d'un enfant, de pouvoir fantasmer, de pouvoir essayer de régler ses conflits internes par le fantasme, par le rêve, par l'épreuve de réalité aussi, etc. etc. Là, qu'est-ce qu'on fait en étant soi-disant ouvert à l'expression de désir de l'enfant, dont on sait aussi que c'est pas la plupart du temps son désir, c'est le désir imaginaire des parents qui a été projeté, mais ça peut être son désir à un certain moment, ça peut être son fantasme, et bien on annule justement cette dimension du fantasme, on annule cette dimension du conflit interne qu'on ne supporte plus, on supporte plus justement de vivre des conflits, de vivre, hein, il faut que tout soit,
assez
tout soit net, tout soit donné,
neutre.
Qu'on soit dans le droit à tout quand on veut, etc. etc. Bon. C'est une sorte de chèque qu'on donne à tout le monde. On peut aussi changer de sexe. Donc oui, c'est très dangereux parce que ça remet vraiment en question la construction d'un enfant, la construction d'un enfant en tant que sujet. C'est catastrophique. Et malheureusement, il y a des démagogues, il y a des gens qui pensent bien faire pour les enfants ont tous les droits, etc. Et ils s'identifient à eux, ils auraient bien voulu avoir ça. Et puis, il y a des psys aussi qui participent à ça. Bien sûr, c'est un truc totalitaire. C'est une idéologie totalitaire qui annihile l'enfant et le psychique.
Alors, on en revient encore à la Somme et cet ouvrage sur l'identité en question qui est articulé par des différents spécialistes. Et finalement, on a l'impression aussi que seuls les psychanalystes ont des réponses à nos questions que l'on peut se poser dans la modernité. Finalement, c'est les mots MOTS sur les mots MAUX. Est-ce que seuls les psychanalystes
écoutez,
ont ça?
J'espère que non. En tout cas, moi, je ne suis pas ces psychanalystes qui font de la psychanalyse appliquée. Et qui ont des explications sur tout. Non, je pense que dans le livre, les psychanalystes qui interviennent ne sont pas des gens comme ça. Il y a Jean-Pierre Winter, il y a Daniel Siboni, Jean-Jacques Moscovitz et bien d'autres, etc. Rachel Rosenblum. Non, on ne donne pas des recettes, on n'a pas des mots définitifs sur tout. Et justement, il y en a d'autres. Il y a des philosophes, Pascal Bruckner, Roger Paul Droit sur les limites, justement, et Monique Atlan. Il y a des juristes, hein, il y a des penseurs sur la pensée juive, dont Chaim Korsia, qui a écrit un très, très bel article sur, au fond, la question de l'identité pendant la période du Covid. La réflexion sur la question, c'est un très bel article. Rivan Krigier, aussi magnifique article sur la question de la responsabilité du libre arbitre, justement, dans le rapport à Dieu. Très intéressant, je veux dire. Là aussi, il y a quelque chose de spécifique. Je veux dire, la responsabilité de l'homme reste première, qu'on soit croyant ou pas croyant. Hein, voilà. Donc, il y a de tout. Il y a des artistes, comme je l'ai dit, etc. Non, les psychanalystes ont affaire. Moi, je fais une différence entre la psychanalyse impliquée et la psychanalyse appliquée. Freud, encore une fois, nous donne un peu l'exemple. C'est-à-dire que Freud, à chaque fois qu'il aborde un texte, qu'il soit clinique ou anthropologique, par exemple comme le Moïse ou l'avenir d'une illusion ou malaise dans la civilisation, il part toujours de qu'est-ce qui l'a intéressé dans ce sujet, qu'est-ce qui l'a amené personnellement à s'intéresser à ce sujet.
Alors c'est la même chose quand vous décidez de faire un colloque sur l'identité en question. Est-ce qu'il y a en filigrane quelque chose que vous voulez toucher du doigt? Ou c'est uniquement se dire, eh bien, on va réunir des spécialistes et chacun va essayer d'apporter des éléments de réponse et finalement plus de questions que de réponses?
Écoutez, si on en sort avec des... Et je crois que c'est le cas pour beaucoup, en tout cas les retours que j'ai, où chacun va se réinterroger sur... Sur le sens, sur qui il est, sur qu'est-ce qu'il a envie d'être. Il y a Rabbi Soussia qui disait, quand je vais me présenter à la porte du ciel, quand il va mourir, on ne va pas me demander pourquoi tu n'as pas été Moïse, mais pourquoi tu n'as pas été Rabbi Soussia. Voilà. Si chacun peut se demander ça, en réfléchissant à partir de nos propres réflexions, si ça peut les inspirer, au fond, qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'essaye de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et comment? Etc. Je crois que c'est ça. Encore une fois, notre identité, c'est jamais ça. Elle est toujours à construire et elle est multiple. et qu'on ait des contradictions, qu'on ait des conflits sur ce qu'on pense, c'est la meilleure chose qui soit. Et on peut espérer, puisque vous parlez des psychanalystes, que les psychanalystes, aussi connus puissent-ils être, aussi renommés, reconnus, ils puissent continuer à se demander, au fond, qu'est-ce qu'ils font tous les jours, est-ce qu'ils entendent quelque chose, qu'est-ce qu'ils renvoient, à quoi ils servent, qu'est-ce qui les touche, etc. Et permettre à l'autre, effectivement, d'en faire quelque chose à lui. Là, je crois qu'on a un petit peu gagné quelque chose, quoi. Un petit peu de terrain. Vous savez, là, il y a la formule de Freud. Parce que tout ça, c'est quand même ce qu'appelait Freud un travail de culture. C'est où il y a le ça, je dois devenir. On doit gagner sur notre inconscient, sur nos pulsions, pour essayer d'assumer notre subjectivité pour être le plus objectif possible. Et au fond, ce que j'essaye de faire, ce que j'essaye d'inculquer chez mes amis ou avec mes amis, c'est au fond, quand ils abordent, c'est qu'ils se posent la question de pourquoi ils ont cette théorie-là. Qu'est-ce qui vient d'eux? Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qu'il y a de subjectif dans pourquoi je pense ça? On a un rapport transférentiel, que moi j'appelle transférentiel, à nos théories, à nos pensées. C'est ça le travail intersubjectif. Si on veut être assez objectif, c'est-à-dire aborder un sujet avec le maximum de neutralité et d'objectivité, il faut pouvoir d'abord s'interroger sur notre subjectivité, travailler sur nous. Au fond, qu'est-ce qui nous pousse à penser ça? Qu'est-ce qui nous pousse à aborder ce sujet? Qu'est-ce qui nous pousse à élaborer cette théorie-là? Parce que sinon, on prend le risque d'être dogmatique. Et ça ne passera pas, en tout cas, j'espère que ça ne passera pas.
Alors, vous en avez l'habitude, il y a une question traditionnelle pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom, de lire l'identité en question, qu'est-ce que vous leur diriez?
Écoutez, moi, je ne peux pas ne pas finir sur l'humour. Alors, voilà les définitions, qu'est-ce qu'un juif? D'ailleurs, chaque juif a sa définition, et c'est très bien comme ça. Et chacun, d'ailleurs, en a plusieurs. Alors, moi, j'aime bien celle... Quand tu racontes une blague à un juif, il la connaît toujours dans une autre version, point de suspension, meilleure. Voilà. L'humour est un paradigme de la question d'identité. C'est-à-dire, dans l'humour, on n'est pas idolâtre de soi-même. Hein. Ce n'est pas un mot d'esprit. Il y a le mot d'esprit français où on est très fin, on se regarde, formidable, la finesse du truc, et on est dégagé de ça. D'ailleurs, on a des humoristes qui se moquent toujours des autres, jamais d'eux-mêmes.
Bon. Et ce n'est pas pour rien, c'est que c'est le propre du judaïsme, l'humour.
Absolument.
Juif.
Et voilà. Et l'humour juif nous remet en question. Il ne nous met pas dans une position de héros, il ne nous met pas dans une position de sachant. On est face à un principe de réalité qui est souvent angoissant. D'ailleurs, on est tordu d'angoisse et de rire chez les juifs. C'est ça, s'il y a quelque chose d'identité, on est tordu. Parce qu'on a un manque, parce qu'on veut changer le destin, donc on est tordu d'angoisse et de rire. Donc on n'est pas des héros, on n'est pas des hommes parfaits, on n'est pas idolâtres de nous-mêmes ou de quelqu'un d'autre. On se remet en question, on se confronte à une réalité difficile, angoissante, conflictuelle, et on essaye de redevenir sujet face à cette situation. On fait ce qu'on peut. Je crois qu'il y a quelque chose à la fois d'exemplaire de la pensée dans l'humour juif et à la fois d'exemplaire dans cette identité qui se défait et se reconstruit à chaque fois sous peine de devenir idolâtre de quelqu'un d'autre qu'on va renverser au prix de devenir idolâtre de nous ou de notre pensée. Hein? Voilà, donc lisez ce livre. parce que je suis pas le seul. Il y a quand même des gens qu'on a cités ou qu'on peut citer qui sont formidables. Etc. Et puis il est beau, et puis vous pouvez le poser à côté de la table, et vous pouvez picorer à chaque
Exactement.
Fois un texte, etc. Je suis très content. Merci, Sandrine.
Eh bien, avec plaisir, et je confirme que c'est un ouvrage essentiel, qui revient à l'essence, à l'ontologie, parce qu'on apprend des choses qui sont originales et en même temps qui apportent des éléments de réflexion dans l'actualité et des sujets qui ont pu nous troubler, et on en a parlé. Donc, merci infiniment. C'est un livre à lire, à s'offrir et à offrir. Et donc, son titre, je le rappelle, L'identité en question, qu'est-ce qui fait peuple, sujet juif, qui vient de paraître aux éditions In Press. Merci. Merci, Micha.
Merci, à bientôt.